entre vous, vous,
vous
et moi.
Une émission présentée par Patricia Drey.
Vous êtes bien de retour dans l'émission Entre vous et moi avec à mes côtés Sephora, comme chaque semaine.
Pour toujours.
Définitivement. C'est un plaisir. Sephora, un plaisir partagé. Et puis, nous abordons la deuxième partie de cette émission aujourd'hui avec la chronique des livres et vous. C'est un véritable voyage initiatique d'un grand-père et de son petit.
Chaque semaine. Pour toujours.
Définitivement.
C'est un plaisir.
Sephora, un plaisir partagé. Et puis, nous abordons la deuxième partie de cette émission aujourd'hui avec la chronique des livres et vous. C'est un véritable voyage initiatique d'un grand-père et de son petit-fils que nous propose notre invité d'aujourd'hui, Daniel Gauthier. Bonjour.
Bonjour Patricia.
Bonjour Daniel et merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer votre deuxième ouvrage, et oui, déjà le deuxième, au titre, je le disais tout à l'heure en début d'émission, au titre assez étonnant, Retour à Auschwitz. Cet ouvrage est paru aux éditions Amalthée et pour les précisions habituelles pour nos auditeurs, il coûte 22 € pour 322 pages. Et alors autant le dire tout de suite, Daniel, j'ai commencé votre livre et je ne l'ai plus quitté. Donc vous connaîtrez peut-être pas encore. Vous êtes donc professeur agrégé d'économie et de gestion. Vous êtes diplômé d'HEC. Oui.
Oui, tout à fait.
Eh oui. Et vous avez été consultant en marketing pour de grandes entreprises françaises et étrangères. Vous êtes passionné de rugby et de littérature et en particulier de séries noires, hein, je dois le dire. Alors peut-être pouvez-vous compléter ce petit portrait assez rapide, Daniel?
Bah, disons que j'ai toujours voulu écrire et que j'ai attendu d'avoir un certain âge pour me mettre à l'écriture.
Oui. Ça a toujours été une passion pour vous, hein?
Oui, ça a toujours été une passion, mais pas seulement le polar, aussi la littérature,
oui,
en général.
Oui.
Et puis, je me suis décidé à écrire il y a quelques années. J'ai écrit deux romans et puis j'en ai fini un troisième.
Oui. Un troisième déjà. Alors, le premier s'appelait Cauchemar Rouge.
Oui.
Je crois qu'il était paru déjà aux éditions... Ah non, c'était aux éditions Cheminement, il me semble.
Oui, tout à fait.
Hein, c'est ça. Et donc, vous êtes amateur de séries noires. Hein. Vous avez une culture séries noires assez impressionnante, puisque je crois que vos auteurs de référence sont une adaptation de Sidney Pollack, hein, de cet ouvrage, Chandler. Et puis, également, vous êtes passionné de littérature au sens large du terme, vous le disiez, parce que vous aimez évidemment les classiques comme Proust. On va voir pourquoi il y a un petit clin d'œil dans ce livre, Retour à Auschwitz, Balzac, Shakespeare, Dostoïevski, et puis l'écrivain d'origine indienne, si je ne m'abuse, et britannique, qui a été prix Nobel de littérature en 2001, je veux parler de Népal.
Oui, tout à fait.
Voilà, hein, c'est bien ça. Voilà. Donc, venons-en maintenant, si vous le voulez bien, Daniel, à votre livre. Alors, je le disais, un voyage initiatique entre avec un grand-père et son petit-fils. Alors, en quelques mots, l'histoire. Jeffrey est un jeune Américain de 18 ans qui doit, incité par son papa, accompagner son grand-père John, qui l'appelle affectueusement Grandpa. Grandpa, grand-père, donc en anglais, pour un voyage en Europe. Alors évidemment, il n'y va pas de gaieté de cœur, même s'il aime infiniment ce grand-père chaleureux et affectueux. Mais ils ignorent tous les deux que ce périple va être parsemé d'embûches, de dangers et de découvertes, et tout cela sur fond d'histoire, avec le fil conducteur qui est la spoliation des biens juifs à Bordeaux. Alors, ma première question pour vous, Daniel, pourquoi cet intérêt pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? On va voir qu'il y a beaucoup de documentation dans cet ouvrage. Et en particulier, donc, pourquoi cet intérêt pour le processus mis en place par Hitler et le régime nazi pour spolier et déposséder les Juifs au cours de cette Deuxième Guerre mondiale?
Alors, ma réponse va être assez longue.
Mais je vous en prie, on est là pour vous écouter.
En fait, je me suis toujours intéressé à la Shoah. Mes parents avaient des amis juifs et j'avais vu une expo dans mon lycée à 18 ans.
Oui.
Qui m'a beaucoup marqué. Donc j'avais toujours envie d'écrire quelque chose sur, on va dire, la question juive, entre guillemets.
Oui.
Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a 3 ans, en discutant avec un de mes amis, qui est historien amateur, il m'explique qu'il avait fait, lui, il faisait une enquête sur la spoliation des biens juifs à Bordeaux.
Oui.
Et qu'il a reçu un coup de fil le menaçant de s'en prendre à son fils et à sa fille.
Ah, il y a quelques années seulement.
Et donc, moi, ça m'a interpellé, j'ai commencé à regarder sur Internet, j'ai acheté des livres sur la spoliation des biens juifs.
Oui.
Et je me suis rendu à Bordeaux, mais disons assez discrètement.
Mmh. On comprend.
Et autour de ça, de la thématique de l'exploitation des biens juifs, j'ai construit un polar.
D'accord. On voit que 70 ans après la guerre, il y a encore des choses qui ne sont pas bonnes à dire.
Tout à fait. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais en première page du Figaro, il y a 3 mois environ, il y a un châtelain qui avait un château de 1500 hectares. Et on a découvert que, bon, il y a eu toute une histoire, mais on a découvert que c'était un bien qui avait été spolié pendant la guerre. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1944, toutes les ventes de biens juifs ont été déclarées nulles et non avenues par De Gaulle.
Oui.
Donc tous les gens qui avaient acquis des biens juifs, plus ou moins honnêtement,
on va dire ça comme ça,
déclaré au tribunal compétent cette acquisition. Ils étaient remboursés de leurs dépenses. Mais comme il y avait des gens qui avaient fait des choses qui étaient vraiment très malhonnêtes, ils en se sont dit, on va attendre, et peut-être que l'eau va couler sous les ponts.
Ah oui.
Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'en 1947, le service de restitution des biens juifs s'est arrêté, et donc ils n'ont pas été poursuivis, en fait, ces gens-là.
C'est incroyable, ça, oui. Et c'est vrai que la région bordelaise, hein, de manière générale, a été, très très importante dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment de la spoliation des biens juifs. Hein. Il y avait une forte communauté juive qui était installée dans la région bordelaise. Hein.
Tout à fait, elle était installée depuis... en fait, c'était des Maranes.
Oui.
Donc ça faisait plusieurs siècles. Mmh. Et donc c'était la communauté en fait la plus ancienne de France, puisque les Juifs ont été expulsés de France vers l'an 1500, je crois.
Mmh.
Et c'était les seuls qui étaient demeurés là.
Ouais.
Et donc les Juifs étaient aux confins du royaume, ils étaient en Alsace-Lorraine, ils étaient en Avignon, ils étaient dans le comté de Nice aussi, et puis à Bordeaux. Et c'est qu'en 89, en 1789, que les Juifs ont pu revenir en France.
Ouais.
Enfin bref, c'était une communauté qui était très ancienne, très bien implantée. Et comme Bordeaux était en zone occupée, la spoliation a commencé très tôt.
Voilà, ouais. Et Bordeaux était un haut lieu de la collaboration, vous le rappelez d'ailleurs dans l'ouvrage. Hein.
Oui, tout à fait, c'est impressionnant le nombre de collaborateurs qu'il y avait à Bordeaux et le nombre de condamnations qu'il y a eu après la guerre d'ailleurs.
Ouais. Alors on le voit, votre polar est construit avec un fond documentaire très important. Comment avez-vous travaillé? Parce que c'est un ouvrage qui est quand même assez dense. C'est à la fois un polar et un ouvrage, je dirais, presque historique. Comment avez-vous travaillé? Est-ce que vous avez, comme l'une de vos héroïnes, Barbara, consulté de nombreuses archives?
Pas tellement, en fait.
Non.
J'ai consulté pas mal de choses. En fait, c'est itératif. Là, j'ai recherché sur Internet, Internet qui m'a indiqué les meilleurs ouvrages sur la question, enfin une liste d'ouvrages, donc j'ai acheté, je sais pas, peut-être 30 ou 40 livres sur la question.
Ouais.
Ensuite, je suis retourné sur Internet pour recreuser la question, c'est comme ça que j'ai travaillé. Alors, j'ai été effectivement à Bordeaux, mais juste pour la partie Bordeaux, quoi.
D'accord, vous êtes allé sur place, donc vous avez enquêté, en quelque sorte, dans la région bordelaise également?
J'ai lu les journaux de l'époque, et puis j'ai lu aussi un rapport municipal, qui avait été demandé par Alain Juppé, sur l'exploitation des biens juifs à Bordeaux.
D'accord, donc un rapport qui a été commandé il y a peu de temps.
Un rapport officiel qui a dû être fait en 2002, je crois.
Ah oui, c'est tout à fait récent, oui.
Et simplement, ce rapport, il détaille le nombre de biens juifs qui ont été spoliés, je cite les chiffres.
Oui.
Mais il se termine en disant la grande majorité des juifs spoliés ont retrouvé leurs biens.
Ah oui, d'accord.
Et la question, c'est la grande majorité, donc il y avait une petite minorité.
Absolument. Oui.
Voilà.
Et donc vous vous êtes intéressé à ceux qui ont été dépossédés et dont l'histoire a perduré finalement. Pourquoi vous êtes intéressé? Comment avez-vous construit l'histoire de Jeffrey et de John, donc le petit-fils et le grand-père?
Là, c'est moi j'écris de manière un peu spéciale. Enfin, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent comme moi. En fait, je suis parti avec deux personnages.
Oui.
Et ensuite, l'histoire s'est greffée autour de ces deux personnages. Par exemple, le personnage du neveu de Marcel Proust, il est sorti comme ça.
Oui, alors justement, je disais un petit clin d'œil. Dans ce livre, vous offrez la possibilité au neveu de Marcel Proust d'intervenir. Alors, c'est totalement inventé, là. C'est l'œuvre du romancier, évidemment. Hein.
Je crois que en fait, le frère de Marcel Proust n'a eu que des filles.
D'accord. Donc là, c'est l'œuvre du romancier. Mais vous en faites un personnage à part entière, hein?
C'est-à-dire que moi je voulais que le grand-père puisse Alors quelqu'un de proche, de très cultivé en face de lui, de façon à ce qu'ils aient des discussions tous les deux, quoi.
Oui, voilà.
C'est ça le. Et puis, parce que j'ai essayé de faire un polar, mais un polar avec, il y a quand même des parties dans ce polar qui sont des parties historiques, même il y a une discussion philosophique à un moment donné dans un chapitre, je sais pas si ça vous a.
Oui, bien sûr.
Donc je voulais faire un polar, mais avec. Pas que un polar.
Voilà, avec un fond quand même. Hein.
Voilà, oui. Pas que du suspense, pas que des retournements de situation, pas que du rythme.
Oui.
Je voulais rajouter un peu de thématique derrière. Maintenant, je ne sais pas si j'ai réussi parce que.
Je vous le confirme, c'est ce que je disais en début d'émission, Daniel. J'ai commencé le livre et je ne l'ai pas lâché jusqu'à la dernière page parce que c'est vrai qu'on est pris dans cette histoire. Je vous disais, c'est vrai que la couverture, on voit le camp d'Auschwitz-Birkenau, l'entrée du camp, et on se dit, oh là là, Auschwitz, ça va être terrible. Et en fait, on entre dans ce polar et on ne le quitte plus jusqu'à la dernière page parce que je pense. Je pense que ça tient aussi à cette grande complicité qui existe entre le petit-fils et le grand-père. Ils ont, vous avez eu l'intelligence de leur faire vivre et partager les mêmes passions et les mêmes goûts. Alors les belles voitures notamment, les armes et puis les femmes évidemment. Ils ont tous les deux des caractères bien trempés. Ils sont très volontaires. Et d'ailleurs il y a une chose qui est assez amusante pour le grand-père lorsque il parle avec son petit-fils, lorsqu'il veut mettre un terme à la discussion. Et puis affirmer ses positions, il dit end of discussion, donc fin de la discussion, c'est point final, quoi.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et de nombreux survivants de la Shoah ont vécu comme John, votre héros, sans pouvoir évoquer la déportation durant des décennies. Et ça aussi, vous le rendez bien dans l'ouvrage. On voit que pendant toute sa vie, puisque je ne sais pas si on l'a dit, mais John a donc quitté la France après la guerre et il est allé vivre et s'installer et faire sa vie aux États-Unis où il a créé sa famille. Son fils est avocat. C'est d'ailleurs ce qui inquiète les bons bordelais qui ont récupérer ses biens pendant la guerre et je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil de ma pensée et donc je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. C'est terrible.
Oui, parce qu'il les inquiète, c'est que en fait il y a eu un mouvement de recherche des biens spoliés qui a été initié par des avocats juifs américains.
Voilà, exactement, c'était ça.
Et donc ils se disent, tiens, il y a des avocats juifs qui débarquent.
Ça les intrigue.
Voilà.
Ouais.
Non, ça leur fait peur. Ouais.
Oui, bien sûr. Non, mais dans un premier temps, ils sont un peu intrigués. Et ensuite, ils sont terrorisés, évidemment. Évidemment. Ils ont très peur. Oui, et John a donc mené sa vie. Voilà ce que je voulais dire, c'est que pendant des années, pendant des décennies, il n'a absolument pas parlé de ce qu'il avait vécu pendant la guerre. Alors, je ne sais pas si on peut le dire, mais même son petit-fils ne sait même pas qu'il est juif. Il va le découvrir. C'est ça qui est...
Ah, parce que le héros, donc, a renié toute attache au judaïsme.
Il n'a pas renié, mais il s'est enfermé dans son silence, hein, Daniel, on peut le dire ainsi.
Enfin, ce qui s'est passé, c'est que... Il y a eu toutes sortes de réactions parmi les rescapés, enfin je pense. Hein.
Oui.
Et il y a effectivement des gens qui, pas pour renier leur judaïsme, mais pour protéger leurs descendants.
Oui, exactement.
Ont caché le fait qu'ils étaient juifs.
Voilà. Et ont caché toute la partie
à leur propre
oui.
descendant.
Oui, oui, absolument, absolument.
Par peur d'un recommencement de la situation qu'ils avaient vécue, donc.
Exactement. Oui, je pense que c'est ça, Daniel. Hein.
C'est
ce que vous vouliez faire passer comme idée hein, dans ce livre. Hein. Donc, on suit l'histoire de John et Jeffrey. Et c'est vrai que c'est un véritable polar parce qu'on va voir qu'ils arrivent en Europe. Alors, au départ, pourquoi ce titre retour à Auschwitz? Parce qu'au départ, le grand-père souhaite emmener son petit-fils donc à la découverte du camp d'Auschwitz. Hein. Il veut lui faire visiter ce camp, alors que le petit-fils ne sait pas que le grand-père est juif. Hein. Donc, c'est ça qui est terrible.
Il ne sait pas qu'il est passé par là.
Et non, il ne le sait pas.
Oui,
il ne le sait pas. Et on voit le cheminement de ce grand-père. On l'accompagne. On est vraiment dans la compassion avec lui parce qu'on voit qu'il veut protéger son petit-fils de tout ce qui pourrait arriver. Il veut le protéger aussi de tout ce qu'il a vécu lui-même. Et c'est assez touchant d'ailleurs. Les relations de ce grand-père avec ce petit-fils sont assez touchantes, je trouve. Vous avez vous avez fait une analyse psychologique de ces personnages assez intéressante, assez poussée, je trouve. Hein.
Oui, ce qu'il faut préciser aussi, peut-être, c'est que c'est le petit-fils qui est le narrateur.
Oui, absolument, c'est vrai. Oui. C'est vrai.
Donc, en fait, on voit le... Enfin, j'ai essayé de... que le lecteur voit les choses par les yeux du
petit-fils.
Il comprend petit à petit qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il imaginait.
Voilà, exactement.
Et pour le titre Retour aux Juifs, c'est parce que quand le grand-père retourne à Juifs, le grand-père, il change.
Voilà, il y a un déclic. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe.
Qu'en fait, il a fui et puis que maintenant, ses enfants et ses petits-enfants sont grands et que finalement, il n'y a plus de danger. C'est ce que j'ai voulu dire.
Mais ouais, tout à fait. Et alors, vous définissez Daniel Gauthier comme un écrivain de polar. J'ai vu ça sur votre site. Pourquoi est-ce que vous aimez particulièrement ce genre littéraire? Et lorsque vous avez commencé à écrire l'histoire de John et Jeffrey, est-ce que ce genre s'est imposé naturellement à vous?
Je sais pas. J'ai un style à moi, quoi, qui est fait de phrases assez courtes.
Oui. Percutante.
Et le polar, c'est presque le contraire du roman, quoi. Le polar, il va très vite. Il décrit l'essentiel d'une situation, alors que le roman, il va creuser la situation jusqu'au bout, quoi.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est l'antithèse de. Enfin, c'est pas l'antithèse. Après le polar, c'est un divertissement.
Oui.
Mais le roman aussi, c'est un divertissement.
Oui, tout à fait.
Mais ça peut être aussi une ouverture sur le monde.
Absolument. Et moi, je me disais, à la lecture de cet ouvrage, j'enverrais bien une adaptation au cinéma. Parce il y a du mouvement, il y a de l'action. On imagine tout à fait. Enfin, moi, je voyais bien le personnage de Proust également, le personnage de Barbara, évidemment. Alors, une femme parmi ces trois hommes, c'est vrai que ça fait une équipe d'enfer, là. C'est vraiment une équipe choc. Hein.
Bah, disons que Barbara, elle a aussi un passé
particulier. Assez intéressant. On peut en dire deux mots, peut-être, si vous voulez,
oui,
de Barbara. Oui, allez-y, je vous écoute.
Ouais, c'est une ancienne activiste de mai 68,
voilà.
qui a eu pas mal d'expériences dans sa vie, qui a failli basculer dans le terrorisme à un moment donné parce que, elle était membre de la branche armée de la cause du peuple. Et heureusement, la cause du peuple a décidé de dissoudre son organisation armée, de se dissoudre elle-même et dissoudre son organisation armée. C'est pour ça que la France n'est. Le terrorisme en France n'a jamais été très important.
Oui.
Ça, c'était le thème de Cauchemar Rouge.
Mon
premier livre.
Le premier livre.
Et donc, cette Barbara, elle est intelligente, elle est très séductrice, elle sait faire parler les gens et c'est une très bonne enquêtrice, quoi, je pense.
Ah oui, absolument, oui. Elle fait un travail remarquable, hein. On parlait des archives tout à l'heure, mais pas seulement. Et puis, elle n'a pas peur, elle fonce, elle y va, hein.
Ah oui, ça, elle est courageuse.
Ah oui, c'est vraiment un vrai personnage de polar. Et c'est pour ça que je me disais, une adaptation au cinéma, je pense que ça donnerait un film assez rythmé, assez percutant aussi. Hein.
Bon.
On va contacter Spielberg.
Voilà, tout de suite. Vous avez entendu Sephora, Daniel?
Non, pas du tout.
Je disais que j'allais contacter Spielberg, qui est un ami très proche, tout de suite après l'émission. On s'en occupe, ne vous inquiétez pas.
Je signe tout de suite, même si
c'est pas. On va faire marcher nos relations, Sephora.
Mais avec plaisir.
Alors c'est vrai que à la fin du livre, bon, alors on va pas dévoiler parce qu'il faut laisser à nos auditeurs et aux futurs lecteurs le plaisir de découvrir l'intrigue. D'ailleurs, j'en profite entre parenthèses, Daniel, pour lancer un appel à nos auditeurs pour leur dire que votre éditeur, les éditions Amalthée, ont eu la gentillesse de nous offrir quelques ouvrages de Retour à Auschwitz, quelques exemplaires. Donc, je lance un appel à nos auditeurs. Si vous avez envie de découvrir ce polar rythmé et percutant, ce polar que vous ne lâcherez pas une fois que vous l'aurez dans les mains, n'hésitez pas à nous appeler au 04 78 03 99 20 avant la fin de l'émission pour emporter un exemplaire de ce livre. Et je suis sûre que vous passerez un moment vraiment très agréable. Alors oui, je disais à la fin de l'ouvrage, on voit que le petit-fils et le grand-père vont donc se retrouver. Il y a des passages particulièrement émouvants, j'ai trouvé, lorsque justement le petit-fils découvre comprend que son grand-père est juif et comprend par où il est passé. Et le grand-père lui dit, page 234, c'est toi, je voulais que tu viennes ici en Europe, que tu comprennes. Alors Jeffrey lui dit que je comprenne quoi? Et le grand-père répond que tu portes en toi une histoire, une tradition. Pour que tu saisisses, je vais faire un détour par moi-même. Et il lui explique que bien malgré lui, les nazis l'ont fait se sentir juif et que plus tard, les Américains lui ont appris à aimer leur pays. pays. Et il dit, ce que je veux dire au fond, c'est qu'un homme peut avoir plusieurs appartenances. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez juste et assez intéressant. On peut se revendiquer juif, américain, français, athée, pourquoi pas. Voilà, toutes les appartenances sont possibles et elles ne sont pas contradictoires finalement. C'est un petit peu ce que vous vouliez dire, Daniel ?
Tout à fait. Allô ?
Oui, on vous écoute. Je pensais que vous alliez développer.
En fait, moi j'ai découvert l'histoire du peuple juif et je me suis aperçu qu'effectivement il y avait des juifs qui se revendiquaient juifs, d'autres qui étaient déjudaïsés, d'autres qui étaient athées, d'autres qui étaient athées militants, d'autres qui étaient juifs mais vraiment de manière tout à fait marginale et que c'est le cas du grand-père. Le grand-père il est avant tout parisien, français, militant communiste quand il est jeune.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Ça, c'est un parcours très classique à l'époque.
Oui, mais en même temps, c'est pas incompatible. Je veux dire, on peut se revendiquer de toutes ces appartenances et le peuple juif en particulier n'est pas une entité homogène. À l'intérieur du peuple juif, toutes les sensibilités peuvent se faire entendre et se font entendre d'ailleurs.
Tout à fait.
C'est aussi cette diversité qui fait la richesse non seulement du peuple juif, mais de tout peuple finalement, de toute communauté.
Tout à fait.
Voilà. Donc, retour à Auschwitz, je vous recommande chaleureusement cet ouvrage qui se situe d'ailleurs, on ne l'a pas dit, dans les années 89-90.
Que je vais vous poser, ça se situait quand en fait, à combien d'années de la guerre ?
Alors moi je l'ai situé dans les années 89-90, Daniel, c'est ça ?
89 exactement.
Voilà, 89. Parce que
45 ans après...
Voilà. Après la fin de la guerre. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a ce petit clin d'œil temporel, parce que à plusieurs reprises on voit que Jeffrey, donc le petit-fils, fait des recherches sur Minitel. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui à l'heure de l'internet il y a plusieurs passages dans lesquels vous mettez en scène Jeffrey qui fait des recherches sur les entreprises de la région bordelaise pour essayer de remonter un petit peu l'histoire de cette spoliation des biens juifs. Il fait des recherches sur Minitel, mais des recherches qui vont se révéler très fructueuses.
Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il utilise un matériel d'écoute, là.
Oui, absolument. Oui, bien sûr.
Je ne voyais pas du tout comment je pourrais faire pour trouver un matériel d'écoute. Ouais. Quels étaient les matériels d'écoute en 89? Combien ils coûtaient? Comment ils fonctionnaient? Alors, en fait, j'étais sur eBay.
Oui.
J'ai contacté des gens qui vendaient du matériel d'écoute. Et je leur ai dit, voilà, je suis en train d'écrire un bouquin qui se passe en 89. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait comme micro-espion à l'époque et tout. Et il y a deux personnes qui m'ont envoyé des pubs de l'époque, des manuels d'utilisation de l'époque.
Ah oui, d'accord.
Qui m'ont expliqué par mail comment ça fonctionnait. Et tout ce que je dis, syntoniser, temps de mégahertz, etc., tout ça, c'est exact.
D'accord. Donc, évidemment, vous avez fait ces recherches pour éviter de faire des anachronismes, j'imagine.
Et puis, tant qu'à expliquer comment fonctionne un matériel d'écoute,
que ce soit crédible. En tout cas, on le voit, vous avez fait pas mal de recherches sur tous les plans, d'ailleurs, aussi bien techniques que historiques. Et c'est sans doute ce qui fait aussi l'intérêt de cet ouvrage, parce que je le disais à nos éditeurs, on plonge vraiment bien volontiers dans cette histoire. Et puis, on n'a pas envie qu'elle se termine, parce qu'on suit ce petit-fils et ce grand-père qui sont des personnages particulièrement attachants, John et Jeffrey. Donc je recommande à nos auditeurs Retour à Auschwitz de Daniel Gauthier. Donc vous avez encore un petit peu de temps avant la fin de l'émission si vous souhaitez acquérir un exemplaire de Retour à Auschwitz paru aux éditions Amalthée. Daniel Gauthier, je vous remercie infiniment d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Et puis pour terminer, dites-nous si vous avez, donc vous nous aviez dit que vous aviez un troisième ouvrage terminé, vous avez d'autres projets à l'heure actuelle?
Oui, mais il faut que je fasse beaucoup de philo.
Ah, de la philo. Pourquoi ? Dites-nous tout.
Ça va être un polar où le héros sera un philosophe.
D'accord.
Un jeune philosophe, un peu handicapé physique, et qui passe son temps à surfer sur Internet et à lire de la philo.
Ah, donc on sera dans les années 2000, là, cette fois.
Oui, 2000, oui, tout à fait.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, on prend rendez-vous alors pour un prochain ouvrage, si vous le souhaitez. Ce sera un plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Daniel.
Merci à vous.
Merci, à très bientôt. Je rappelle à nos auditeurs, donc Retour à Auschwitz, si vous avez envie, et je vous le recommande, de découvrir cet ouvrage. Là, les vacances approchent. Hein. Retour à Auschwitz, paru aux éditions Amalté, 22 €, 322 pages. Et vous avez la possibilité de gagner un exemplaire si vous appelez avant midi et demi aujourd'hui au 04 78 03 99 20. Et on se retrouve dans un instant après une pause musicale. Mais je voulais simplement préciser que vous avez également la possibilité de gagner un exemplaire du livre de Gérard de Cortance que nous avons évoqué avec l'auteur la semaine dernière, Passion de la langue française. Il y a quelques exemplaires également à vous offrir. C'est Hanouka aujourd'hui, hein, avant l'heure.
Plein de cadeaux.
Plein de cadeaux. Et puis, je voulais également vous dire que dans le cadre de l'année croisée France-Russie 2010, hein, nous recevrons dans deux semaines, je crois, Vladimir Fedorovski, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Le roman de Tolstoï. Et puis également, vous dire que à l'Alliance française, ce soir, jeudi 10 juin à 18h30, il y aura une exposition, le vernissage de l'exposition qui durera jusqu'au 30 juin, 11 rue Pierre Bourdan, Lyon 3e. N'hésitez pas à vous rendre à l'Alliance française qui propose toujours des manifestations culturelles d'une grande qualité. Donc rendez-vous ce soir au vernissage de l'expo à 18h30, 11 rue Pierre Bourdan, à l'Alliance française de Lyon. Et tout de suite, nous marquons une pause avec Herbert Pagani et l'Étoile d'or.
C'était un pauvre paysan qui cultivait depuis longtemps son tout petit lopin de terre. Petit lopin de rien du tout, rien que du sable et des cailloux, quatre sarments sous la lumière. Cet homme partageait son temps entre son Dieu et ses enfants, entre son chant et ses prières. Et n'avait qu'un petit trésor, une étoile d'or. Un jour qu'il soignait ses raisins, il vit venir tous ses voisins en cavalcade à ses frontières. Il vit briller leurs grands couteaux, il leur dit « Voulez-vous de l'eau ?» Ils répondirent « On veut ta terre ». En quoi vous gêne-t-il mon chant ? Ils répondirent, allez, va-t'en. Il prit son livre de prière. Il prit sa femme et ses enfants et son étoile d'or. Ainsi partit le paysan en traversant la nuit des temps à la recherche d'une terre. Mes bras sont forts, j'ai du courage, j'accepte même un marécage. Il ne trouva que des barrières. T'es pas d'ici, t'as un accent, fais-toi prêteur, fais-toi marchand, mais tu n'auras jamais de terre. On se méfie de ton trésor, ton étoile d'or. Faute d'avoir un champ de blé, l'homme se mit à cultiver son petit champ dedans sa tête. On le vit scribe, et puis docteur, puis violoniste et professeur, peintre, savant ou bien poète. Tu fais du bruit, tu vends du vent, t'as trop d'idées ou trop d'argent, t'es un danger pour qui t'approche. On va te coudre sur la poche ton étoile d'or. Et vint le temps des grands chasseurs, des chiens d'arrêt, des rabatteurs. Ce fut vraiment la grande fête. Demandez-le au bon tireur, avec l'étoile sur le cœur, on traque beaucoup mieux la bête. Et notre pauvre paysan perdit sa femme et ses enfants, et puis le cœur et puis la tête. Il n'avait plus que son trésor, son étoile d'or. Alors il traversa la mer à la rencontre de sa terre. C'était ou ça ou bien se pendre. Revendez-moi mon vieux désert. Tu sais, ça va te coûter cher. Tant pis, je prends, tu peux le prendre. Le temps de tracer un sillon, un coup de feu à l'horizon, il bascula dans la poussière. Du sang par terre et sur son front, une étoile d'or, une étoile d'or.